Cinquième, géographie. Thème 1, la question démographique et l'inégal développement. Le vocabulaire, donc je rappelle, hein, vocabulaire, vous avez dans le cours sur histographie l'essentiel du vocabulaire. Là, moi, je ne vais expliquer et présenter que le vocabulaire le plus important, donc celui qui est surligné. Je rappelle également que on peut apprendre par cœur, mais si on apprend par cœur, il faut absolument comprendre ce qu'on apprend. Hein, sinon, ça ne sert à rien. Donc, soyez capable d'expliquer ce que vous avez compris, ce que vous retenez, et vous pouvez aussi le retenir avec vos propres mots. Alors, première notion importante, la notion bien sûr de croissance démographique. Donc, croissance, augmentation, démographique, la population, augmentation de la population. Pour cela, on va additionner l'accroissement naturel, c'est-à-dire on prend les naissances et on retire les décès. Par exemple, hein, j'ai 100 naissances, j'ai 50 décès, ça me fait plus 50. Et on va également, sur cet accroissement naturel, on va ajouter le solde migratoire. Pourquoi? Ben parce que j'ai des personnes qui peuvent quitter un pays, mais j'ai des personnes qui peuvent rentrer dans un pays. Ah, donc je peux avoir là aussi à l'inverse, hein, j'ai 50 personnes qui quittent le pays, mais j'en ai 100 qui rentrent. Donc au final, j'ai 50 de plus. D'accord? Donc la croissance démographique, on additionne l'accroissement naturel, naissance moins décès, et le solde migratoire, entrant moins sortant. Seconde notion, l'espérance de vie. Donc ça, c'est assez simple, hein, c'est la durée moyenne de vie d'un individu. Alors ça peut être surprenant, mais on est à peu près capable, hein, pour chaque pays, d'avoir une idée à peu près en moyenne de la durée de vie d'une personne. Donc ça permet bah d'abord d'essayer de faire des progrès si cette durée de vie elle est basse. Hein, ça veut dire que la personne elle est mal nourrie, mal soignée, peut-être mal éduquée. Et puis, par exemple, mal protégée quand elle est âgée. Le taux de fécondité, là aussi, une donnée importante quand on étudie la population, c'est le nombre moyen d'enfants par femme âgée de 15 à 50 ans. Donc là aussi, en fait, on peut faire des moyennes, hein. On sait à peu près combien d'enfants va avoir une femme durant sa vie de femme. Donc en fonction des pays, ça varie, hein. Alors si on prend l'exemple de la France, on a à peu près 2 enfants par femme en moyenne en France. Alors pourquoi compter le nombre d'enfants? Bah, c'est très simple aussi. Si on part d'une base, un père, une mère pour avoir un enfant, on a donc 2 personnes quand on parle de parents. Si on veut remplacer ces 2 parents, bah, il faudra 2 enfants. Donc si un pays fait moins de 2 enfants, mathématiquement sa population va baisser. A l'inverse, si un pays fait plus de 2 enfants par femme, mathématiquement sa population va augmenter. Quatrième notion, une notion qui nous permet de mesurer la richesse d'un pays, alors elle n'est pas toujours simple, c'est PIB, donc c'est un sigle ou un acronyme, on peut dire le PIB, ça veut dire le produit intérieur brut. Alors là, ça ne vous dit pas grand-chose, hein. Il faut retenir que quand vous voyez le PIB d'un pays, ça correspond à l'ensemble des richesses qui sont produites par les entreprises de ce pays ou par des entreprises étrangères mais qui sont dans ce pays. Alors, si on prend l'exemple de la France, on va prendre donc toutes les entreprises françaises qui travaillent en France et puis on va ajouter également les entreprises étrangères. Si on prend par exemple Amazon qui a construit des entrepôts en France. Eh bien, Amazon donne du travail à des Français, il produit de la richesse en France, et donc on va prendre l'ensemble de ces richesses, et ça nous donnera donc un ordre d'idée de la richesse produite par ce pays. C'est un critère qui permet de dire si un pays est riche, ou si un pays est pauvre, ou si un pays est développé, ou pas développé, ou un pays émergent. La notion maintenant de révolution verte, alors. Révolution, il faut toujours en histoire ou en géographie l'entendre par changement très très important. La couleur verte, eh bien, vous pensez à l'agriculture. Donc la révolution verte, c'est la modernisation de l'agriculture qui va reposer sur l'intensification, c'est-à-dire sur l'augmentation des rendements agricoles. Donc on va produire beaucoup plus, notamment enfin, dans le but évidemment de nourrir la population, hein, donc augmentation des rendements agricoles. Comment? Bah, grâce aux machines, et aux produits chimiques principalement. Donc ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de tracteurs, on va mettre plus d'insecticides pour tuer les insectes, on va mettre plus d'herbicides pour tuer les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on va faire des sélections génétiques, on va utiliser même des organismes génétiquement modifiés, des OGM. L'objectif, c'est d'augmenter la production agricole pour répondre aux besoins du pays. Alors, on verra que cette révolution verte, elle a des effets positifs, immédiats, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'une population qui ne mange pas à sa faim, bah, la révolution verte va effectivement permettre à la population de manger à sa faim. Mais on verra aussi que cette révolution verte, elle a des conséquences parfois très négatives sur l'environnement, avec pollutions très importantes, des sols, des sous-sols, de l'eau, de toute la diversité du vivant, et également des conséquences parfois négatives sur les hommes, sur ceux qui travaillent ou sur ceux qui vivent dans ces régions. Enfin, dernière notion à retenir, le taux d'urbanisation. L'urbanisation, c'est ce qui se correspond à la ville, hein, aux urbains. C'est le pourcentage d'urbains dans la population totale d'un pays ou d'une région. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important, hein. Savoir si j'ai plus d'habitants en ville ou plus d'habitants à la campagne, ça va me donner une idée du développement du pays. Vivre à la campagne, c'est pas du tout la même chose que de vivre en ville. Voilà. Et vivre en ville, ça veut dire avoir la capacité de nourrir ceux qui vivent en ville, puisque ceux qui vivent en ville, par définition, ne produisent pas, hein, ce qu'ils consomment. Le vocabulaire maintenant pour le deuxième sous-thème, la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde. Alors on va avoir la notion de développement d'abord, évidemment. Donc c'est la capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa population. On l'avait vu dans les notions, hein. Alors les besoins, c'est la santé, l'habitat, l'alimentation. Et également donc à améliorer ses conditions de vie. L'objectif, hein, c'est faire en sorte que la population vive toujours mieux. Et cette notion de développement, elle est évidemment liée à la notion de développement durable. Donc, je répète, hein, on l'avait vu dans les notions. Le développement durable, c'est un type de développement où l'utilisation actuelle des ressources et de l'environnement ne doit pas nuire à leur utilisation par les générations futures. Le développement durable, c'est une idée qui a été formulée en 1992 lors d'une réunion où on a commencé à s'intéresser sérieusement, je dirais, au futur, à l'avenir de la planète. Et ce développement durable, donc, il a trois objectifs très précis. Le premier objectif, c'est la protection de l'environnement. Pour cela, par exemple, utiliser plus les énergies renouvelables que les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies qui ont été créées il y a des centaines de millions d'années, comme le pétrole. C'est également limiter la disparition des espèces animales et végétales, c'est diminuer la quantité de déchets, c'est améliorer la qualité de l'air, etc. Deuxième point, deuxième objectif dans ce développement durable, c'est le progrès social. Donc là, c'est permettre à la population de vivre plus sainement, en dépensant moins et en créant plus d'emplois, en faisant que les gens soient mieux logés, y compris en faisant en sorte que les gens soient mieux dans leur vie au quotidien. Et enfin, le troisième objectif, on peut parler de pilier, hein, c'est le développement économique qui doit répondre aux besoins actuels sans compromettre l'avenir. Donc je répète, hein, le développement durable, on va se baser sur trois objectifs, trois piliers, le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Troisième notion, l'exode rural, c'est le déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a connu en France plutôt entre le 18e et le 19e siècle. C'est-à-dire là, on avait avant plus de gens qui vivaient à la campagne qu'à la ville, et petit à petit, donc, les personnes ont quitté la campagne pour aller en ville. Cet exode rural, il continue d'avoir lieu, notamment dans les pays qui ont un développement un petit peu en retard ou qui sont ce qu'on appelle des pays émergents, donc qui aujourd'hui accélèrent leur développement. Et ce sont des pays qui ont encore une population qui vit en majorité parfois à la campagne. Donc on a ces habitants qui quittent la campagne pour aller vivre en ville. Attention, c'est pas si simple que ça, hein. Ça veut dire que ça a des conséquences. Quitter la campagne, ça veut dire qu'on arrête de travailler la terre, parfois, et ça veut dire qu'arriver en ville, eh bien, on ne travaille plus la terre, et ça veut dire que on doit se loger, on doit travailler, ce qui nécessite parfois une qualification, et on verra que c'est pas simple quand on n'a pas de qualification. Quatrième notion, la pauvreté, bien sûr. Donc, on l'avait dit, hein, la pauvreté, ce n'est pas le fait d'avoir les moyens de vivre, justement, normalement. Pardon, je n'ai pas été très clair là-dessus, je reviens là sur la pauvreté. Donc, la pauvreté, c'est le fait donc de ne pas vivre correctement. Donc, évidemment, ne pas avoir un revenu suffisant pour vivre, mais ça a d'autres conséquences. Ça veut dire être mal logé parfois, être mal nourri, mal vêtu, ça veut dire mal éduqué parce que par exemple simplement on n'ira pas à l'école, parce que dans le pays il n'y a pas d'école, ne pas pouvoir se déplacer. Voilà, donc c'est un ensemble de faits, de conséquences qui sont mesurables. Les pays émergents, donc ce sont les pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui vivent une croissance économique rapide. Donc des pays qui accélèrent leur développement, ces pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie par exemple. Un sigle PMA pour pays les moins avancés. Alors ce sont clairement les pays les plus pauvres, les PMA, les pays qui connaissent les conditions de vie les plus difficiles. Alors on a eu la pauvreté, on a à l'inverse la notion de richesse. Donc, la richesse est un état d'un groupe ou d'une personne qui possède des biens et des ressources importants supérieurs à la majorité des habitants d'un pays. Alors, on peut avoir une personne riche, on peut avoir un pays riche. Ce n'est pas parce que j'ai un pays riche que tout le monde est riche dans ce pays. Si on prend la France, on est à peu près 67 millions d'habitants. Nous sommes un pays riche, mais on a 10 millions de personnes pauvres. Donc, on a une majorité d'habitants riches avec une minorité de pauvres. On a la même chose aux États-Unis ou dans d'autres pays. Autre notion, la notion de ségrégation raciale. C'est pas raciale, ça existe, hein, ségrégation raciale, mais là on est sur la ségrégation spatiale. Alors la ségrégation, c'est le fait d'être mis de côté. Le fait d'être mis, par exemple, dans un espace. Donc c'est le regroupement de personnes. C'est pour ça que je parlais de ségrégation raciale, parce que ça peut être le regroupement de personnes de même origine. Là, la ségrégation spatiale, c'est le regroupement de personnes de même niveau de vie. Alors, ça peut être des riches qui vivent entre eux, ou ça peut être des pauvres qui vivent entre eux, et qui vont vivre dans le même espace. Donc ça veut dire que, par exemple, dans une très grande ville, je vais avoir parfois des quartiers qui ne réunissent que les pauvres. A l'inverse, j'aurai des quartiers qui ne réunissent que les riches. Donc ça, c'est une réalité qu'on voit dans le monde entier, dans toutes les villes. On a comme ça des ségrégations spatiales avec des quartiers riches, des quartiers pauvres, des quartiers parfois mixtes, c'est-à-dire qui réunissent les deux. Hein. Ça, évidemment, ça engendre des phénomènes urbains particuliers avec des conséquences qui seront à étudier. Dernière notion, la notion d'inégalité sociale. Il s'agit évidemment des inégalités de richesse et notamment des conditions de vie qu'on pourra également étudier. Donc, ça va de, encore une fois, du travail, de l'éducation, de l'alimentation, de la santé, etc. Voilà pour les principales notions que nous aurons à aborder dans ce thème